milieu là. Ouais. C'est bon. J'ai pas amené mes roulettes hein, personnelles. Voilà, bonne année à toutes et à tous. Et surtout que cette année soit une année de direction, qu'il y ait la faveur de Dieu sur chacune de vos vies et sur vos foyers et sur cette église. Et que la faveur de Dieu aussi aille sur le Bercail et sur toutes les œuvres, sur l'établissement Daniel, et puis on pourrait citer toutes les œuvres qu'il y a ici même. Je pense à l'ISP, je pense à tout cela. En tout cas, soyez bénis, renouvelés, et que cette année, comme le disait tout à l'heure Julie, ne soit pas une entrée en matière qui attire la peur, la crainte, mais notre confiance renouvelée dans celui que nous aimons, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines en arrière, nous avions parlé d'un homme qui a marqué son histoire, son nom c'est Saül. Et j'aimerais rapidement, avec l'écran, faire un petit résumé de ce que nous avions vu ensemble, mais rapidement, très rapidement. Donc si on pouvait passer le PowerPoint, sinon on peut passer directement à la sixième, et on va carrément sur le site pour écouter le message. Ce serait peut-être le mieux, je ne sais pas. Voilà, donc première slide, voilà. Le titre c'est « Le caractère garant de l'onction ». Et on avait vu donc la puissance qui est moins importante que le caractère dans la vie d'un chrétien. Et on avait vu le roi Saül qui était le résultat, lui, d'une élection humaine. Vous vous souvenez de cela? Et ce n'était pas le traitement de Dieu dans son caractère, mais la volonté du peuple qui voulait faire comme tous les autres pays, avoir un roi. Et Samuel a été dérangé par la demande du peuple. Et Dieu lui a dit à Samuel, mais c'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Et donc, on avait vu ensemble qu'il y avait la volonté directe de Dieu. On sait ce que c'est que la volonté de Dieu pour nos vies. Et puis, il y avait aussi la volonté permissive de Dieu. Donc, on continue. Ce roi, c'était donc le résultat d'une élection humaine. Et parce qu'il y a l'onction sur lui, vous vous rappelez, il est descendu avec une compagnie de prophètes, il a été saisi par l'Esprit de Dieu, il a été transformé en un autre homme, mais cette onction qui est venue sur lui n'était qu'une onction passagère. Il l'avait reçue d'autres et il s'est mis à prophétiser, comme tout le monde. Et les gens ont dit, mais Saül fait-il partie aussi des prophètes? Donc, parce qu'il y a une onction que les gens voient, qui est comme un vêtement extérieur, si tu ne grandis pas à l'intérieur, si tu ne permets pas à Dieu de travailler ton esprit, alors cet habit va se perdre. Ça va comme s'évanouir, si tu veux, au fur et à mesure que le temps va passer. Ensuite, l'onction qui demeure, ce n'est pas le résultat de l'imposition des mains non plus, mais du traitement de Dieu dans le cœur de l'homme. Alors Saül a eu de grandes victoires, c'est vrai, il a prophétisé, on l'a reconnu comme prophète, mais il devait se soumettre à Samuel, chose qu'il n'a pas faite, on continue. Et donc, il n'est plus puissant, il n'a plus d'onction, il devient confus, il n'entend plus la voix de Dieu, il ne reçoit plus de révélation, il perd sa sensibilité, son discernement, il n'entend plus la voix de Dieu et il se tourne vers les devins, vers ceux qui travaillent avec l'occultisme et il finit par mourir finalement dans la misère. Alors, lorsque ce plan n'a pas marché, on voit que Dieu, lui, a toujours un autre plan et on l'appellera le plan B. Donc, on voit David, c'est deuxième grande partie, on va étudier aujourd'hui la vie de David et ça va nous instruire et ça va nous permettre de faire le point sur notre propre vie spirituelle. Un roi qui, lui, n'est pas le résultat de l'élection d'un peuple, mais du traitement de Dieu. C'est l'élection de Dieu et le traitement de Dieu dans son caractère. Et au milieu de tout cela, Dieu a toujours un autre plan, on l'appellera ici le plan B de Dieu. Et on voit que Dieu ne perd pas ni la guerre ni la bataille, mais il a toujours un plan. Et comme Saül ne marchait pas dans le plan qu'il avait prévu lui, eh bien il avait en réserve un homme qui s'appelle David. Et regardez ce qui est intéressant, on va connaître l'histoire de David. Dieu dit à Samuel à un moment précis que ceux qui sont loin extérieurement peuvent fonctionner à certains temps, mais pas durablement. Et à un moment donné, Dieu dit maintenant commence le plan B. Ça veut dire que Dieu s'apprête à oindre quelqu'un qui sera selon son cœur. Et c'est là que Dieu dit à Samuel de prendre une corne, de la remplir d'huile et d'aller dans la maison d'un nommé Isaïe et là d'aller oindre celui que Dieu lui montrerait pour roi d'Israël. Alors Samuel obéit, mais Samuel, vous savez qu'il a été traumatisé par ce qui s'est passé avec Saül, et il a même lui-même, Samuel, été rejeté. Enfin, il arrive dans la maison d'Isaïe, et voilà, il projette ce plan de prendre cette corne, de la verser sur la tête de celui que Dieu lui montrerait. Alors un premier garçon se présente, qui était grand de taille, beau de figure, et lorsque Samuel l'a vu, il a dit certainement, parce qu'il pensait à Saül, qui était grand, qui était très beau, et qui était un guerrier puissant, il a dit c'est certainement celui-là. Et Dieu lui dit non, c'est pas celui-là, parce que moi je ne regarde pas à l'apparence, je regarde au cœur. Et là, tous les fils vont défiler devant Samuel, et chaque fois qu'un fils va défiler, eh bien Dieu va lui dire non, c'est pas celui-là. Et tous ceux qui sont dans la maison passent devant Samuel, et puis à un moment donné, Samuel, qui entend la voix de Dieu, qui connaît la voix de Dieu, qui sait que Dieu lui a dit, mais tu vas oindre pour roi un des fils d'Isaïe, il s'étonne, il dit, mais tous sont passés et aucun n'a l'approbation de Dieu. Il va poser cette question, sans cela, tous tes fils. Alors Isaïe répond, ah non, j'en ai encore un petit jeune, mais il est dans les champs, il est en train de garder les troupeaux. Alors Samuel lui dit, va le chercher, on ne mangera pas avant d'avoir vu ce fils. Et lorsque on va chercher ce petit David qui avait environ 13 ans, c'était un préadolescent, lorsqu'il le voit arriver, tout à coup la voix de Dieu résonne dans le cœur de Samuel. Samuel lui dit, c'est lui, oint-le pour roi. Alors ça, c'est une histoire que l'on raconte souvent, mais la Bible dit qu'il était beau, mais il était très 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 jeune. Et c'est pour ça qu'il lui manquait la stature, c'était un enfant. Ils ne sont pas tous allés au combat parce qu'il fallait avoir au moins 20 ans pour y aller. Alors les frères étaient partis au combat, mais lui était resté. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait les troupeaux de son père. Très intéressant tout cela, ça va nous aider pour aller plus loin. Maintenant, vous voyez ce qui se passe. Il a environ 13 ans, 13 ou 15 ans, mais il ne deviendra roi, écoutez bien, qu'à 30 ans seulement. Et ça me fait penser un personnage de l'Ancien Testament qui s'appelle Joseph. À 17 ans, il reçoit une révélation de Dieu, deux révélations même, deux rêves, deux visions qu'il raconte à ses frères. Et à 17 ans, il est déporté en Égypte, on l'arrête, on le met en prison. Et ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il sort de prison pour libérer un pays et pour devenir le premier après Pharaon en pays d'Égypte. Dieu se sert de jeunes. Mais Dieu aussi travaille le cœur des jeunes pour les transformer à l'image qui est dans son cœur. Alors, quand il a été roi, il a utilisé son statut de roi pour, bien sûr, parfois des intérêts personnels. Mais à la fin de ses jours, après un règne de 40 ans, cet homme meurt en paix, dit la Bible. Il est emmené près du Seigneur, il achève ses jours et il donne le plan prophétique pour la génération suivante. Aucun ennemi ne pourra le vaincre. Il donne les richesses les plus grandes. Quelle différence dans la mort de l'un et de l'autre. David, lui, c'est quelqu'un qui sera élevé par Dieu. Et permettons à Dieu, mes amis, ce matin, permettons à Dieu de nous traiter ou de ne pas nous traiter. Le destin de David, c'était d'être en Sion et de régner en Sion. Voilà, ça c'était le plan de Dieu. Quand Dieu choisit quelqu'un pour être roi, c'est son élection à lui et c'est Dieu qui choisit l'homme et cela conduit à un processus pour rendre cet homme capable d'exercer une autorité. Alors David est passé par ce processus et son destin, notez bien, c'était Sion. Pas tout de suite, mais beaucoup plus tard, alors qu'il aura plus de 30 ans, c'est Sion qui l'attend. Et David a voulu à un moment donné, vous rappelez, emmener l'arche à Sion et il l'a fait avec des moyens humains, mais Dieu l'a retenu et lui a enseigné afin qu'il ne fasse pas conformément à ce que font les hommes. Dieu a un plan, mes amis, pour son Église et ce plan, c'est que nous régnions dans la présence de Dieu à Sion. Sion, c'est le gouvernement, c'est le lieu du gouvernement, c'est le lieu culminant du gouvernement, c'est l'endroit où Dieu délie l'onction. Et lorsque tu es arrivé à cet endroit et que l'onction est sur ta vie, Dieu va utiliser plus ton caractère que l'onction afin de pouvoir délier ceux qui t'entourent et afin de les bénir eux-mêmes à leur tour. Tout ce que tu reçois de Dieu, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Les fruits que tu vas porter, ce sont les autres qui vont venir les manger. Retiens bien cela. Alors j'aimerais qu'on aille à la diapo suivante. C'est qu'il y a 4 étapes dans la vie de ceux qui sont loin. La première étape, c'est l'étape de la charpenterie. C'est là qu'on te sort, c'est de là que Dieu te forme. C'est le lieu où tu travailles, c'est ton lieu, c'est ton bureau, ça peut être ton champ, ça peut être autre chose. Mais une fois qu'il t'en fait sortir, il va te mettre dans un autre endroit. Et là, tu vas franchir une deuxième étape, ça va être l'étape de la gloire. Ça me fait penser à notre conversion, aux premiers instants où on a loué le Seigneur. On a été rempli du Saint-Esprit, on a été émerveillé par la puissance de Dieu. C'était l'étape de la gloire. Et puis donc, tu commences à être fameux, parce que les fils de Dieu sont des gens remarquables. Dieu les utilise, il y a des miracles, il y a des signes, il y a des réponses aux prières. Mais après l'étape de la gloire, ne grincez pas des dents, il y a l'étape de la croix, et il n'y a pas de vie véritable sans le résultat de la crucifixion. Pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait la mort. Et cette étape de la croix t'amènera à l'étape de vie et de résurrection. On aime celle-là aussi. Et chaque fois que tu vois quelqu'un de vraiment de fabuleux, hier je regardais l'hommage qu'on a rendu à un grand homme de Dieu qui s'appelle Reinhard Bonnke, un évangéliste qui a été à la base de la conversion de millions d'âmes. Je me disais, ça c'était un général vraiment de la foi. Un homme qui a porté des fruits dans les nations. Un homme qui a reçu une vision dans son pays, c'est que l'Afrique serait lavée dans le sang de Jésus. Un homme qui a prêché devant des foules entières. Un homme qui a vu des miracles, des guérisons, des choses sensationnelles se faire. Mais ça ne s'est pas fait sans étapes. Et ses débuts ont été des débuts laborieux. Mais à la fin de sa vie, on peut dire que c'est un homme qui a marqué des présidents, qui a été introduit dans des lieux où un simple chrétien n'irait jamais. Et c'est un homme qui a marqué son époque. Donc Dieu va traiter notre caractère, et c'est seulement en mourant à beaucoup de choses que nous pourrons donner lieu à ce que la vie de Dieu passe au travers de nous. La diapo suivante, on va aller par étapes. Ce matin, je vais vous présenter 4 étapes dans notre vie chrétienne. La première étape, on l'appellera Bethléem. Et Bethléem, c'est le lieu de la fidélité dans les choses naturelles, dans les choses que l'on rencontre jour après jour. Et ça, c'est le lieu de ta promotion. C'est la première étape. Qu'est-ce que Bethléem ? Que signifie cette étape ? Eh bien, on le trouve dans le premier chapitre, dans le 1 Samuel chapitre 16. Et on voit que, on ne va pas le lire ce matin, ce serait trop long, mais on voit que c'est le lieu de la fidélité dans les choses naturelles. Que veut dire Bethléem ? Bethléem veut dire la maison du pain. En réalité, dans la vie de David, c'est l'étape de ses origines, de ses commencements, et je dirais même de ses petits commencements. Il est toujours dit de David qu'il était de Bethléem de Juda. C'était son origine, son début, c'était Bethléem. C'est l'étape durant laquelle Dieu commence à traiter avec toi afin de t'enseigner qu'il y a une étape de formation qui s'appelle la fidélité dans les petites choses. La fidélité dans les petites choses. Et je bénis Dieu pour cette église. On a eu une année de formation avec Hachim, où on a pu mettre en place des équipiers, avec des conseillers. Mais je voudrais dire à tous ceux qui se lèvent dans la responsabilité, qui se lèvent pour servir Dieu dans cette église, il y a cette étape de Bethléem qui est vraiment importante. C'est l'étape durant laquelle Dieu traite avec toi, t'enseigne. Il y a une étape de formation qui s'appelle fidélité dans les petites choses ou dans les choses complètement naturelles. Et ça, c'est le Bethléem. Dieu est en train de former le caractère et il va traiter ses oints, O-I-N-T-S, afin de former en eux un caractère de service, un caractère de fidélité dans les petites choses, dans les choses quotidiennes, les choses courantes de la vie. Et ça, c'est la façon de faire de Dieu. Moi, j'ai vu des gens aller dans des endroits pour être formés. Et quand ils sont venus aller dans l'église, revenus dans l'église locale, ils ont roulé des mécaniques en demandant mais quel était leur véritable ministère. Un jour, j'ai envoyé un gars de chez nous, là, à Fontenay, et il est allé à l'université d'été. Quand il est rentré, Il est venu me voir en disant, ben maintenant, il pensait être peut-être le second après le pasteur principal. Alors je le regarde et je lui dis, avant de partir, tu faisais quoi ? Ben avant de partir, je m'occupais des jeunes, avant de partir, je faisais de l'intercession, avant de partir, j'étais dans la maison de prière. Je lui dis, mais continue à faire ce que tu faisais avant de partir, ça c'est ton démarrage et Dieu te donnera la suite plus tard. Vous voyez, il pensait qu'ayant un diplôme, il aurait une position de choix, une position en vue devant tout le monde, mais Dieu voulait le casser, le briser et lui montrer que ce n'était pas le chemin. Mais le chemin passe par la fidélité et l'esprit de service dans les petites choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs ? C'est comme ça que Dieu veut traiter. Il va nous former dans ces choses qui nous semblent insignifiantes, alors que peut-être d'autres sont déjà à la guerre et ils ont une position importante. Le moins important est en train de garder des brebis de la maison de son père. Et c'est là que David va apprendre la discipline. C'est là que se forgent les principes de vie. C'est à Bethléem que Dieu va t'enseigner à être fidèle derrière l'onction, à être fidèle dans les petites choses, fidèle dans la maison, fidèle dans les champs, fidèle dans... Et cela parle de la vie de l'Église, fidèle dans les départements de l'Église, fidèle dans ta position, à ta place, au niveau de l'Église. Sinon, ben nous deviendrons comme Saül, on va marcher derrière les prophètes, on va courir après l'onction. Moi, j'ai connu des gens qui couraient après les onctions. Vous savez, dans l'église locale, vous ne les voyez jamais bouger. Dans les grands rassemblements, quand il y avait un ministère avec une forte onction, c'était les premiers à courir sur le devant pour qu'on leur impose les mains. Mais plus d'onction passagère, ça sert à quoi ? Ça va faire du bruit un certain temps, mais ça va s'évanouir au bout d'un certain temps. Bethléem, mes amis, c'est le lieu du commencement. Le chemin des oints commence par leur propre maison, leur propre église locale, en étant fidèles dans les petites choses, en faisant des autels de fidélité, de discipline, d'obéissance, en recevant des corrections parce que Dieu nous corrige, Dieu nous discipline, eh bien, on grandit dans Bethléem. Alors, David, qu'est-ce qu'il a appris avec les troupeaux ? Ben, quand un ours venait, il défendait son troupeau, David. Et il s'opposait, il arrachait la gueule des lions et il déchirait l'ours. Et il savait que chaque fois qu'il réalisait un miracle comme ceci, un exploit comme celui-là, ce n'était pas lui qui le faisait, c'est son Dieu qui était avec lui. Celui qu'il louait avec sa flûte, celui qu'il louait dans les champs avec sa harpe, c'était ce Dieu qui lui venait en aide. Et David a grandi justement dans la confiance, on parlait de confiance hein, tout à l'heure, Julie, David a grandi dans la confiance en son Dieu, et même si des éléments disturbants venaient le rencontrer, quand l'ours venait, c'est impressionnant un ours, quand le lion venait, c'est très impressionnant un lion, eh bien David était vainqueur, et là il gardait ces choses dans son cœur, il n'ébruitait pas ces choses, mais Dieu était en train de le former dans son Bethléem. Et puis dans ce lieu Bethléem, il y a le lieu de la promotion. Bethléem, c'est aussi le lieu de la promotion parce que quand tu as appris à être fidèle dans des petites choses, Dieu va t'en confier de plus grandes. Dieu te promeut. Et Dieu dit, cet homme, cette femme est fidèle, je vais lui préparer un géant immense. C'est le moment de l'amener à la guerre avec quelques petits pains et avec quelques poissons. Et David n'avait pas d'armes, il n'avait pas d'épée. Mais son papa lui dit, tu vas aller prendre des nouvelles de tes frères et tu vas leur apporter quelques nourritures. Et le jeune homme de 13 ans, l'unique chose qu'il sait faire, c'est être fidèle dans les petites choses. Alors il dit à son père, ok papa, je vais aller les voir et je vais leur apporter ce que tu m'offres de ta main pour eux. Il était donc le plus jeune, il faisait des petites choses, mais Jésus a dit que celui qui serait fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confierait de plus grandes. Et donc, ce garçon est allé à la guerre en obéissant. Et quand il est arrivé sur place, il a entendu quelqu'un qui disait aux Israélites, je cite 1 Samuel 17, versets 8 et 9, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ?» C'était le géant qui parlait. « Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül. » Vous vous rendez compte ? Moi, je suis le Philistin, mais vous, vous êtes les petits esclaves de Saül. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Et David a entendu cela. Et David, qui est passé par Bethléem, a entendu cela, il dit, quel est cet incirconcis pour insulter l'armée de l'Éternel? J'irai et je le combattrai. Moi, quand j'entends des choses comme ça, je sens ma foi être revigorée, pas vous? Alors il est allé voir Saül, et vous connaissez la suite. Saül ne voyait qu'un gamin s'approcher, et Saül se disait, ce pauvre, il va aller vers la mort, certainement. Il lui propose même son armure. Alors il essaye l'armure de Saül. Je suppose que le préadolescent ou le petit adolescent qu'il était se voit mettre une armure d'1,75 mètre ou de 2 mètres de haut, n'est-ce pas? Une armure qui est trop lourde, trop encombrante pour lui. L'épée même, elle était trop lourde pour lui, l'épée de Saül. Il ne pouvait même pas la porter. Alors il s'est débarrassé de tout cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la rivière et il a pris 5 petites pierres polies qu'il a mises dans sa gibecière. Et puis il est allé au devant de ce géant, non pas avec les armes que l'on connaît de guerre, mais il est allé avec celles qu'il connaissait, avec ce qui lui avait servi dans les petites choses, c'est-à-dire simplement des cailloux et une fronde. Mais ce qu'il a appris dans sa solitude avec les animaux, c'était de mettre sa confiance en l'Éternel. Et il est allé à la rencontre de ce géant au nom de l'Éternel des armées. Il a sorti sa fronde et avec ça, se dit-il, je peux le faire parce que mon Dieu est avec moi. Quand tu es fidèle dans ton Bethléem, c'est Dieu qui te donne une promotion, qui met devant toi un géant sur ton chemin, géant qui va, duquel tu vas, il va pouvoir promouvoir ton ministère. J'ai une bonne nouvelle pour vous, est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? Alors je vais vous poser une question. Qui veut une promotion dans son ministère, c'est-à-dire dans son service pour Dieu? Personne. Non, vous m'étonnez là. Ouais, vous savez ce que je vais dire après, c'est pour ça que vous ne levez pas la main. Parce que vous dites, si je dis, ok, moi je veux une promotion, je vais te dire, Dieu va t'envoyer un géant. Mais dis merci au Seigneur pour le géant qu'il va t'envoyer. Parce que tu ne vas jamais être terrassé par le géant, c'est le géant qui va être terrassé par toi. Qui veut une promotion dans cette salle ce matin? Franchement, mais moi je lève ma main, mais je lève mes deux mains, et si je pouvais lever mes pieds, mais je vais tomber. Simplement, aussi grande est la promotion que tu désires, aussi grand sera ton géant, mais Dieu est en train de préparer ton géant, et aucun géant, écoute-moi bien, et je vais te reposer la question tout à l'heure, aucun géant n'approchera de ta vie pour te détruire, mais pour t'élever, car Dieu lui-même combattra pour toi et avec toi. Et je dis, béni soit le nom de l'Éternel pour cela. Qui veut une promotion dans cette église, s'il vous plaît? Allez, levez la main, n'ayez pas peur. C'est par la foi que je vous demande de faire cela. Parce que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Rien ne pourra te séparer de l'amour de ton Dieu. Alors, si ton géant est grand, réjouis-toi, c'est la promotion que Dieu va te donner et cette promotion sera grande. Béni soit Dieu pour cela. Avant, le diable peut-être venait contre toi en rugissant, mais maintenant, s'il vient avec toi, contre toi avec un géant, eh bien, frotte-toi les mains et dis-toi ceci, gloire à Dieu, grand comme tu es, tu vas tomber, car tu es le Philistin incirconcis, mais moi, je suis le fils de l'Alliance de Dieu, je ne vais pas te combattre dans la chair, mais je vais te combattre au nom de l'Éternel des armées. Et c'est pourquoi, Église de Jésus-Christ, tu es dans la victoire, parce que Christ est avec toi et combat avec toi. Qui veut une promotion? Ça commence à venir. Seigneur, convainc-les au nom de Jésus. Bethléem, c'est le lieu de ta préparation, mais c'est le lieu de ta promotion. Si tu n'as pas de promotion, tu as besoin d'un Bethléem. La seule chose qui va t'aider, c'est de respecter l'autorité que Dieu a placée auprès de toi. Et ça, ça s'apprend à Bethléem. On va aller dans la diapo suivante. C'est la deuxième étape que l'on va appeler Adullam. Et on répète ensemble. Deuxième étape. C'est pour voir si vous dormez ou pas. Donc, c'est l'étape de la fidélité dans les besoins. C'est la deuxième étape où c'est l'étape de persécution qui va te conduire à Adullam. Il est dit dans 1 Samuel 22:1, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent. Ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, écoutez bien, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et David devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. On ne parle pas des femmes, mais avec les femmes, ça devait faire beaucoup, 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 sans compter les enfants. Quelle congrégation extraordinaire que celle-là. 400 personnes et l'onction n'était pas la caractéristique de cette multitude. La caractéristique de cette multitude, c'était des gens qui étaient affligés, des gens qui étaient endettés et des gens qui étaient mécontents. Vous en voudriez d'une église composée de gens endettés, affligés, toujours en train de râler, mécontents? Vous faites un truc, ils disent le contraire. Vous remarquez, vous essayez de les aider, ils vous accusent de vouloir les aider. Voilà, David a reçu 400 personnes et la seconde étape après la promotion, c'est la persécution. Et quand Satan se lance à vous persécuter, sachez-vous, est-ce que vous savez combien d'années Saül a persécuté David ? Ou combien de temps ? Est-ce que c'était une semaine ? Est-ce que c'était une année ? Est-ce que c'était 10 ans ? Est-ce que c'était, vous savez combien d'années ? 14 ans. Merci pour la réponse exacte. 14 années de persécution David a enduré. Et Adullam représente le niveau de fidélité au milieu de tes besoins. Il y a des gens qui sont de merveilleux ministres et qui sont bons quand tout va bien. Mais quand le diable leur tombe dessus et qu'ils doivent se réfugier à Adullam, Dieu leur envoie tous les affligés. Il va leur envoyer des gens endettés, mécontents, pour voir comment ils vont réagir, parce qu'il y a une différence entre être persécuté et Dieu. Le diable peut faire tout ce qu'il veut, mes amis, mais jamais il ne disqualifiera Dieu lui-même. Ton état d'âme émotionnel n'est pas important, Dieu restera toujours le même. Et puis, peu importe comment tu vas te sentir émotionnellement, la puissance de Dieu, de toute façon, elle va jaillir toujours. Parce que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans les moments les plus durs de ma vie, durant lesquels j'ai dû faire des choses pour Dieu, Dieu m'a enseigné que mes émotions ne faisaient pas partie de son projet, mais que c'est l'esprit qui en fait partie, et l'esprit avec un grand E. Et si je maintiens ma communion avec lui, même si le diable vient contre moi avec tout ce qu'il peut, si c'est le temps où j'ai le moins prié, si c'est le temps où j'ai été le plus défait, où j'ai eu le plus de besoins, Dieu a toujours fait des miracles parce qu'il est toujours le même, il ne change pas et il a toujours béni les gens. Gloire à Dieu. Lui est le, savez, il est stable parce qu'il est le rocher des siècles. C'est pourquoi quand on s'appuie sur Dieu, on est inébranlable parce que le rocher des siècles est inébranlable. Amen. Notre vie repose sur Dieu. Et Dieu veut t'enseigner que l'onction que tu vas recevoir, c'est pas seulement pour toi une chose à garder parce qu'elle est là, elle est tienne. C'est pour donner, c'est pour sortir les affligés et ceux qui sont devenus amers, pour les amener à un niveau de vie qu'ils n'ont jamais connu. Et ces 400 hommes, mes amis, ils ont été transformés et ils sont devenus les vaillants de David. Alléluia! Quand on lit ce récit, on n'a pas envie de s'approcher de ces 400 et on a envie de dire au Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire pour David? Le pauvre David! Eh bien, l'onction qui était sur David, elle est venue sur ces 400 et cette onction les a transformés en de vaillants guerriers. L'onction qu'il y avait à Adullam transforme les affligés en de vaillants héros pour le règne de Dieu. Et je dis alléluia pour cet épisode de la parole de Dieu. Diapo suivante. Dieu va t'éprouver à Adullam. C'est le lieu où tes principes vont être éprouvés parce que c'est facile de donner de l'argent. On parlait tout à l'heure de la dîme, des offrandes. C'est facile de donner quand on en a assez. Mais lorsque tu n'en as plus, Dieu veut t'éprouver pour voir si tu donnes parce que tu as ou parce que tu mets en pratique les principes bibliques. Dieu veut éprouver ta fidélité et ton respect de l'autorité. Quand tu crois que ton autorité n'est pas meilleure que toi, tu n'es pas disposé à négocier le respect de l'autorité. David était à Adullam et Saül continuait à le persécuter. Et vous savez le conseil qu'on a donné à David dans la caverne ? Parce que David a vu Saül entrer dans la caverne pour faire ses petits besoins. Il s'est accroupi et les gens ont commencé à dire à David dans son oreille très très doucement « Vas-y, c'est le moment, tue-le !» Vous savez ce qu'a dit David ? « Jamais je ne mettrai ma main sur loin de l'Éternel. » Et David s'est contenté de couper un pan de la robe de Saül. Et quand Saül a fini ses petits besoins et qu'il est sorti de la caverne, il l'a laissé partir un peu. Et David est sorti de la caverne et il a hélé Saül en lui disant « Saül, Saül, est-ce toi mon fils ?»« Oui, c'est bien moi. Regarde, est-ce que tu reconnais cela ?» Et il lui montre le pan de sa robe. « J'avais le pouvoir de te tuer. Je pouvais le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que tu es un oint de l'Éternel. Tu as été oint d'huile devant l'Éternel. » Et Saül s'est mis à pleurer, il a fondu en larmes devant l'amour et la bonté, mais surtout devant le respect que lui a prodigué cet homme de Dieu, David. Et ce récit à Enguedi nous dit que Saül est entré dans cette grotte, mais il en est ressorti vivant. Et moi je dis que David avait simplement, si un jour tu dois être mis en position d'autorité, te promouvoir dans l'autorité, cela ne viendra jamais si tu n'as pas de respect pour les personnes que Dieu conduit devant toi sur son chemin. Et Adullam, c'est comme un four dans lequel la température va s'élever, mais une fois que Dieu a atteint son but, alors tu es prêt à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à Hébron. On va aller dans la diapo suivante. Hébron, c'est la troisième étape. C'est le lieu de l'alliance, c'est le lieu du pacte, c'est la troisième étape. Quand tout semblait fini, on voit que David se lève, il va à Hébron, Saül est mort, le peuple veut que David devienne roi, roi d'abord sur la tribu de Juda, et il l'emmène à Hébron, et là, ils le font roi. Et on a quelques chapitres dans 2 Samuel 2:1. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui dit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je ?» L'Éternel répondit, « À Hébron. » Si vous continuez à lire au chapitre 3, vous verrez que des hommes de la tribu d'Israël sont venus à Hébron. Et pourquoi sont-ils venus ? Eh bien, pour faire une alliance, et celle de David avec Abner, par exemple. Et quand Dieu t'a fait passer par Bethléem, quand il t'a appris la discipline, il a formé en toi des principes de caractère, il t'a mis à Adullam pour voir te mettre à l'épreuve dans Adullam, mais il te dit maintenant, cet homme, cette femme, ce sont des gens que j'ai regardés, ce sont des gens qui sont prêts à être des gens d'alliance, des gens de confiance, de pacte. Ils sont fiables, pas de compromis dans leur vie, ils ne se vendent pas, nul ne peut les acheter, nul ne peut les confondre, ce sont des gens centrés sur ma parole, ce sont des gens qui sont des gens d'alliance. Au fur et à mesure, Dieu nous débarrasse de tout ce qui est opposition à sa volonté. Vous vous rappelez dans Ésaïe 55, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant « Vos voix ne sont pas mes voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et il faut que petit à petit, on se règle sur la parole de Dieu. Et il faut que petit à petit, on se règle sur les pensées de Dieu. Et qu'on fasse nôtre ce que déclare la parole de Dieu. Quand la Bible dit, la main de Dieu accomplit. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est agréable, mais qui est aussi parfaite. Vous vous rendez compte à quel point il est important que vous et moi, nous soyons fiables. Vous savez, il y a une différence entre la fidélité et la loyauté. Souvent, les gens confondent fidélité et loyauté. Je vais vous prendre un exemple. Absalom, vous rappelez le fils de ce roi, Absalom qui était totalement fidèle, il était à la porte, il était même plus fidèle et ponctuel que le roi lui-même. Il écoutait ce que le roi n'écoutait pas. Et il travaillait le cœur de tous ceux que le roi ne travaillait pas. Il était fidèle au gouvernement, Il était fidèle à un horaire de travail, il était fidèle, mais il était complètement déloyal à son père parce qu'il ne respectait pas l'autorité. On dirait aujourd'hui, dans le gouvernement, c'est un frondeur. Mais vous savez, Dieu doit traiter avec nos cœurs pour faire de nous des gens de pacte, des gens d'alliance. Et à certaines occasions, des gens d'autres tribus sont venus vers David et David a dit, venez-vous pour la paix ou venez-vous pour la guerre? Il leur posait la question. Et c'est seulement lorsque Dieu travaille nos cœurs que nous sommes plus disposés à sacrifier, les moindres principes de la Bible, de la parole de Dieu. Et Dieu a tenu David à Hébron pendant 7 ans et demi. Il a travaillé son cœur et il lui a dit après, mais l'heure est venue pour que maintenant David entre à Sion. Et il y a une promesse, un processus de 33 ans jusqu'à ce que David puisse le comprendre. Vous voyez, la formation de Dieu ne se fait pas comme un thé instantané ou un café instantané. On met la poudre au fond de la tasse, de l'eau chaude et on a ce que l'on veut. La préparation est longue, mais le résultat en est beau. Gloire à Dieu. Alors, la diapo suivante, c'est la dernière étape, c'est Sion. Et j'aimerais qu'on puisse se projeter depuis notre église sur les nations, sur notre nation, sur notre région, sur notre ville. On parle toujours de la Judée, de la Samarie, des extrémités de la terre, de Jérusalem d'abord, Judée, Samarie, extrémités de la terre. Mais je vais partir des extrémités de la terre, on va aller en Samarie, la Judée, Guebwiller, le petit village où on habite, le quartier où l'on habite, notre famille. Voilà, Dieu veut que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Sion, c'est le lieu de l'adoration corporative nationale en équipe. Qu'est-ce que Sion ? Eh bien, c'est le lieu du travail corporatif, c'est ensemble. Et vous savez, Dieu est en train de faire ce qu'il est en train de faire avec David. Tu sais, tu es un très bon pasteur de brebis, David. Tu es très bon pour tuer le lion et l'ours, pour tuer les géants, c'est extraordinaire. Ton Bethléem est glorieux. Mais si je ne te mets pas à Adullam et ne t'embête pas à Hébron, si je ne peux pas faire de toi un homme de principe et de pacte, alors quand l'habileté, les talents seront là, tu vas te croire un personnage important. Et ce que Dieu voudrait nous faire comprendre ce matin, mon frère, ma sœur, c'est que si Dieu ne nous fait pas passer par toutes ces étapes que nous avons citées, alors on deviendra non pas une personne d'alliance, mais peut-être quelqu'un qui sera imbu de lui-même, quelqu'un qui comptera sur ses propres dons, quelqu'un qui sera admiré, adulé. Mais le seul qui puisse briller, mes amis, dans notre vie, autour de nous, son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de place pour un autre que Jésus-Christ. Un bon prédicateur doit savoir que toute la gloire revient toujours à Jésus. Un bon orateur doit savoir que toute la gloire appartient à Jésus. Celui qui est utilisé pour les miracles doit savoir que toute la gloire appartient à Jésus. Un bon chanteur, un bon chantre, un bon musicien doit savoir que toute la gloire appartient à Jésus et à Jésus seul. Alléluia. Toute la gloire appartient à Jésus, non pas à nous éternels, mais à ton nom donne gloire. On ne dit pas amen, tant pis. Alors quand tu es à Sion, tu apprends à savoir quelle est la demande de Dieu, qui a un plan pour toi, parce que Dieu a un plan pour les nations. Et je me suis toujours posé la question, vous savez, quand à un moment donné je voyageais beaucoup, j'allais beaucoup en Afrique, et je me souviens que des gens murmuraient quand je partais en disant « Mais pourquoi il va en Afrique? Il y a tellement de besoins ici sur la région parisienne. » Les gens n'avaient pas compris qu'en fait, Dieu peut travailler sur plusieurs tableaux. Mais la préparation, elle se fait là où tu es planté, dans ton Antioche, dans ton église locale. Et je me suis posé la question, « Seigneur, que pensent les chrétiens qui ont l'habitude de rester dans l'église locale du 1er janvier au 31 décembre, sans jamais sortir, sans jamais aller dans les nations? Est-ce qu'ils se sentent utiles quelque part? Et je voudrais te dire ce matin, ta place dans l'église locale est plus qu'importante. Tu participes au réveil des nations. Tu participes à l'onction qui va déferler sur les nations, parce que Dieu va réveiller l'Église. Il va la rendre glorieuse, sans tache ni rien de semblable. Il va la rendre inébranlable. Et quand on regarde le visage de l'Église, on peut se dire, mais Seigneur, tu as encore du boulot à faire. Oui, il a du travail à faire avec nous. Mais son plan, c'est que l'Église soit glorieuse et que cette Église règne sur la terre avec celui qui est appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors si toi, tu es là, tu existes pour les nations, pour les bénir, car Dieu a un plan pour les nations. Dieu a besoin que tu comprennes que son propos est d'amener une nation à une adoration constante. C'est pour cela que le psalmiste dit, vous toutes les nations, battez des mains, acclamez le Dieu d'Israël avec des cris de joie. Vous toutes les nations, battez des mains. Et si tu lis les psaumes, tu vas te rendre compte que David avait compris que Sion, c'était le lieu de l'adoration nationale, de l'adoration corporative, de l'adoration collective. On peut avoir les meilleurs musiciens, on peut avoir le meilleur joueur de football, le mieux payé du monde, le plus célèbre, mais si on n'a pas la capacité de former une équipe, ça ne sert absolument à rien. Si chacun cherche à ce que la gloire lui revienne, ça ne sert à rien. Sion, c'est quand tu peux te donner, quand tu as été traité pour former une équipe, et on est enseigné comment régner en Sion, comment notre caractère va-t-il être formé. Et il y a des gens qui n'acceptent pas ce lieu, il leur manque tout ce qui précède Adulam, il leur manque ce que l'on a décrit tout à l'heure. Et moi, je crois que, en fait, quand Dieu t'utilise dans l'Église, quand il utilise tes mains pour le piano, pour la guitare, quand il utilise tes cordes vocales pour la voix, quand il t'utilise, il utilise ta main, tes mains pour la libération des vies, pour la guérison des malades, quand il t'utilise pour la prédication, quand il t'utilise pour que sa gloire descende, que tu sois pareil quand tu retournes à ta place que quand tu l'as quitté, au nom de Jésus. Tu n'es simplement que quelqu'un qui fait partie d'une corporation, mais tous ensemble, ce que nous voulons voir, c'est la gloire de Dieu, partir de ce lieu et commencer à toucher la ville, commencer à toucher la région, toucher notre pays, toucher l'Europe, toucher d'autres nations, parce que Dieu veut que sa gloire parte de là pour aller toucher d'autres endroits que celui-ci. Dernière diapo, le caractère, c'est la caractéristique apostolique qu'aura l'Église, mes amis. Et là, je voudrais vous dire que Dieu se préoccupe de former des caractères. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est quoi ? Vous savez, on en a parlé il n'y a pas longtemps, je l'ai entendu ici, dans ce lieu. On a parlé de... Moi, quand j'étais jeune, j'avais entendu que l'Esprit Saint était composé de l'amour. Bon, vous connaissez les quartiers, l'amour, la tempérance, l'humilité, etc., la joie, la paix, etc., la maîtrise de soi. Bon. Et on m'avait dit, c'est comme une orange. Quand on défait la peau d'une orange, qu'est-ce qu'on a ? On a un fruit avec des quartiers. Et chaque quartier, c'est un petit morceau du fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est tout ça ensemble. C'est le fruit de l'Esprit. Alors, tout au long de l'histoire de ton ministère, tu restes avec l'idée que le fruit de l'Esprit, c'est comme une orange. Mais en réalité, le fruit de l'Esprit, c'est le résultat du combat spirituel à travers Bethléem, Adulam, Hébron et Sion, qui forment ton caractère. Parce que lorsque ton caractère est formé, tu seras plus occupé à n'être qu'un instrument entre les mains de Dieu plutôt qu'à d'être le numéro un. Tu sais que ce que Dieu désire 24 heures sur 24, mois après mois, année après année, c'est que sa gloire illumine les nations et aussi tu es compris dedans pour que toi tu sois une partie du plan de Dieu pour les nations. Quand tu pries, tu participes au réveil des nations. Il y a une onction puissante, diapo suivante, qui doit venir. Et le monde s'apprête à recevoir une onction merveilleuse. C'est une onction prophétique, c'est une onction apostolique, c'est une double portion que le Seigneur veut mettre sur toi. Et la portion de fondement et de puissance qui a levé l'Église primitive autrefois viendra, mais viendra avec une mesure supérieure à celle qu'on a connue dans le Nouveau Testament. Et nous ne verrons pas se manifester cela si le caractère de Christ ne se forme pas en nous, mes amis. Nous ne parlons pas de prophétiser, mais de faire dans l'esprit et le caractère correct. On ne parle pas de prêcher, on ne parle pas d'enseigner, de prier pour la guérison des malades, mais de le faire avec un cœur juste. Quand Jésus priait pour les malades, savez ce qui le motivait ? C'était la compassion pour ces malades. Jésus, ému de compassion, il ne supportait pas la destruction par la maladie. Et quand il voyait un malade, ça, la première chose qu'il faisait, c'est d'ordonner à la maladie de quitter le corps. C'est d'imposer les mains afin que la puissance qui retient liée cette personne s'en aille de ce corps et libère complètement ce corps. Il agissait parce que son cœur était ému de compassion. Et un cœur traité, c'est un homme ou une femme duquel l'onction ne va pas se perdre. Dieu est en train de former des caractères et des fruits de l'Esprit-Saint, le même caractère que celui que Christ avait. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, mais ce que Dieu veut, c'est que tu franchisses ces étapes une après l'autre. Et parfois, nous croyons que l'onction vient seulement quand nous avons un homme ou un non, pas du tout. L'onction, c'est la manifestation extérieure d'une puissance intérieure. C'est la manifestation visible d'une puissance invisible qui touche notre cœur. Et je dis merci Seigneur, c'est la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Et ma prière pour 2020, c'est que Jésus soit encore plus grand, formé au fond de ton cœur. Qu'il occupe, comme dit Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et si l'onction n'est pas accompagnée du caractère de Christ, si elle n'est extérieure, alors petit à petit elle va s'effriter, elle va s'en aller. Mais l'onction extérieure, qu'elle ne t'impressionne pas, sois plutôt impressionné par le caractère. Et ma prière, c'est que ce matin, à partir de ce premier culte du premier dimanche de l'année, tu puisses avoir comme objectif de dire au Seigneur, « Seigneur, continue à travailler ma vie, continue à travailler mon cœur. Je veux grandir en toi, mais je veux te servir dans la puissance du Saint-Esprit avec tous mes amis qui sont autour de moi, ensemble, en corporation, en église. Levons-nous pour Christ. » Et déclarons que 2020 sera une année de progrès, une année bénie, une année où il y aura des résultats autour de nous. J'ai entendu le témoignage tout à l'heure de notre sœur par rapport à ton lieu de travail. Ça bouge. Pourquoi l'Église s'est mise en prière? Est-ce que vous ne croyez pas, si on entre dans une haute dimension de louange et d'adoration, que ça va avoir des répercussions sur notre région, que ça va avoir des répercussions sur notre département, sur nos départements, sur l'Alsace, sur le Grand Est, même si on n'aime pas cette expression ici. Des répercussions sur notre pays de France. Alléluia. Mais que la France aussi exporte, enfin, à l'étranger, de bonnes choses, et non pas la révolution. On veut la révolution avec Jésus, n'est-ce pas? On veut une révolution qui touche les nations, qui touche les présidents, qui touche le cœur des hautes autorités. Mais pour ça, il faut que Christ soit formé en chacun de nous. Alors, bonne année 2020 et que Dieu vous bénisse, mes amis, en son nom puissant. Amen.